have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir à tous, Abdourahmane Dia au micro et bienvenue dans votre magazine hebdomadaire L'Amérique et vous, ce que nous allons donc consacrer à l'état d'urgence nationale déclaré par le président Donald Trump, et c'est pour pouvoir contourner le Congrès et financer le mur qu'il veut construire à la frontière avec le Mexique. Le Congrès qui a adopté hier un budget donc pour le fonctionnement du gouvernement ne lui a pas accordé les 5,7 milliards de dollars qu'il réclamait. Les démocrates qualifient la décision du président d'abus de pouvoir et promettent de saisir la justice. Nous allons parler de tout cela avec nos invités. D'abord, ambassadeur Eman Cohen. Ambassadeur, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, vous êtes ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines. Nous avons également en ligne de Bakersfield en Californie, Dennis Beaver. Bonsoir.
Bonjour de la Californie où il fait un temps magnifique.
Absolument. Donc, vous êtes également donc avocat à Bakersfield. Avant d'entamer le débat, je vous propose juste un petit extrait de la déclaration du président Donald Trump donc ce matin. On écoute.
C'est une bonne chose à faire parce que nous avons une invasion de drogue, une invasion de gangs, une invasion de personnes, et c'est inacceptable. Ce que nous voulons faire est très simple. Nous voulons arrêter l'entrée de la drogue dans notre pays. Nous voulons arrêter l'entrée des criminels et des gangs dans notre pays.
Voilà donc le président Donald Trump ce matin. Le président qui voulait 5,7 milliards de dollars du Congrès, finalement, il dit qu'il peut obtenir jusqu'à 8 milliards de dollars grâce à l'état d'urgence. Monsieur Cohen, pourquoi l'état d'urgence? Avant même d'aller dans le fond, pourquoi l'état d'urgence national est un peu prévu par la Constitution américaine et dans quel contexte?
Oui, c'est prévu par la Constitution quand il y a une raison d'urgence. Par exemple, s'il y a une attaque militaire contre les États-Unis, ou s'il y a une grande inondation qui menace de tuer beaucoup de monde, le président a le droit de déclarer l'état d'urgence pour prendre certains pouvoirs sans passer par le Congrès.
Oui, en fait, il n'est pas le seul à avoir déclaré l'état d'urgence. Pourquoi ça fait polémique? On a au moins une trentaine de déclarations d'urgence aux États-Unis.
Oui, bien sûr, mais il y en a dans le passé qui n'ont pas marché. Ils étaient attaqués en justice. Par exemple, même pendant une guerre en Corée, le président Truman a déclaré l'état d'urgence. Il a voulu prendre possession d'une société privée d'acier. Et la Cour suprême a dit que c'est anticonstitutionnel, il ne pouvait pas le faire. Donc chaque état d'urgence est spécial et ça ne marche pas toujours.
D'accord. Alors, M. Beaver, ce qui se passe à la frontière sud, est-ce qu'on peut considérer cela comme une urgence nationale?
Certainement, certainement. Tu sais, on a, ici en Californie, avec les sans-abri, les homeless, les gens qui vivent dans les rues, des milliers de gens qui sont des vétérans, sont des pauvres, sont des malades, toxicomanes, etc., etc. On n'a pas d'appartement, on n'a pas vraiment, on peut pas les recevoir. Ils vivent dans les rues. Qu'est-ce qu'on va faire avec des milliers de gens de l'Amérique du Sud qui, un fléau, sont en train d'envahir notre pays? Mais c'est vraiment dingue de dire que c'est OK. Oui, c'est dangereux. Il faut agir maintenant.
Mais tout ce que vous citez,
il y a 20 ans même.
Est-ce que c'est forcément lié à la traversée massive d'immigrants, le département de Homeland Security, comme on dit ici, le département de la sécurité intérieure, a publié des chiffres qui montrent qu'en fait le nombre de traversées a baissé.
Quand même, baissé de quoi? Baissé de quel chiffre? Un énormément de gens qui essaient de traverser la frontière illégalement. Il faut respecter notre droit, le droit américain. Mais c'est dingue de dire que c'est OK de venir ici comme ça. D'accord. C'est vraiment dingue.
D'accord. Herman Cohen, Jimmy Carter, par exemple, avait déclaré l'état d'urgence après la prise d'otages en Iran en 1979. Le président Bush en 2001, après les attentats du 11 septembre, et même le président Obama sur l'épidémie de grippe aviaire en 2009. Pourquoi c'est différent cette fois-ci?
Oh oui, il y a des arguments pour et contre. À mon avis, c'est pas un état d'urgence sur la frontière. La plupart des gens qui viennent illégalement ne traversent pas la frontière comme ça. Ils arrivent, ils ont des visas en général. Ils arrivent dans les ports d'entrée légaux. Mais ce qu'ils font, ils restent après l'expiration de la visa. C'est ça le grand nombre de gens qui restent sans légalité. C'est pas les gens qui traversent la frontière. Et aussi faire un mur pour stopper ces gens-là, c'est un peu ridicule. Donnez-moi un mur de 30 mètres, j'aurai une échelle de 31 mètres, n'est-ce pas, où je traverse en dessous. À mon avis, le mur est inutile.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors?
Il faut recevoir des gens qui veulent traverser. Ce qui est dans le budget, qui est très bien, c'est une augmentation d'argent pour les juges d'immigration. Ces juges...
pour accélérer la procédure?
Oui, pour accélérer la procédure. Les gens demandent l'asile politique, l'asile économique, et... pour les gens qui ne méritent pas, ils sont refoulés dans le Mexique ou dans le pays. À mettre les gens même dans les avions pour retourner en Honduras. C'est ça qui fait marcher la machine. C'est pas un mur.
D'accord. Je crois qu'on a deux auditeurs. Ben Benoît depuis Kinshasa, n'est-ce pas, Ben Benoît?
Oui, je vous écoute.
Oui, alors vous avez écouté un peu nos deux invités et vous avez également suivi l'actualité, le président Trump qui a déclaré l'état d'urgence nationale pour chercher les moyens de construire son mur après que le Congrès a pratiquement refusé de lui accorder les 5 milliards qu'il cherchait. On vous écoute.
Vu la décision prise par Donald Trump, pour moi, c'est vraiment une insulte pour les Américains et surtout les démocrates. Et c'est vraiment un abus du pouvoir. Parce que ce que lui a entré dans le jeu, ce n'est pas vraiment ce qui va faire la grande puissance pour les États-Unis. Lui est en train vraiment de prendre la politique d'une manière sportive. Et alors qu'il doit la suivre de principe. En principe normal, sur les États-Unis, il sait que nous comptons très bien, il y a le cas de chance que cette président doit s'en laisser. Mais je ne sais pas s'il doit pouvoir s'en
Je crois qu'on a du mal à comprendre la ligne. Avec Kinshasa n'est pas très très bonne, mais je crois comprendre qu'il critique un peu la décision. Nous avons Brahima Doumbia depuis Bamako. Brahima.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Oui, on vous écoute. Vous avez un point de vue ou bien une question?
J'ai un point de vue. Je pense que le président américain est un peu affaibli dans sa démarche. Sinon, même si la Constitution lui permet, je ne pense pas qu'il devait décréter l'état d'urgence. Il devait quand même...
Pourquoi pas?
Il est sur ses forces. Je pense qu'il a des atouts puisqu'il a un clan républicain, mais il voit que ce clan républicain n'est pas totalement à sa faveur. Et s'il part avec cette décision, je pense que les démocrates seront farouchement contre. Et même il y a ses partisans aussi dans son clan qui seront contre. Et il faut rappeler que le fait de construire un mur, je ne pense pas que ça va mettre fin à ce problème-là. C'est un problème qui persiste, qui est là depuis très longtemps dans la société américaine. Il faut trouver autre solution. Il y a les psychanalyses, il y a tous ces moyens-là. Je pense sinon mettre des murs, des barrières quand même pour essayer de mettre fin, je pense que ce n'est pas une bonne idée.
Voilà. Aussi, merci. Merci beaucoup, Brahima. Denis Beaver, effectivement, comme notre auditeur du Mali l'a dit, il y a quand même du côté républicain une certaine résistance. C'est pas tout le monde qui est à bord sur cette idée, même s'ils le soutiennent sur le principe du mur.
pose la question aux Chinois, grand muraille de Chine, pendant des siècles et des siècles, qui a très bien marché pour garder dehors la Chine, les gens qui ne voulaient pas qu'ils rentrent un mur.
Mais est-ce que les États-Unis...
Il y a des murs partout dans le monde.
Oui.
Pourquoi pas ici?
Monsieur Beaver, est-ce que les États-Unis veulent vraiment se comparer à la Chine, qu'elle critique souvent en termes de droits humains?
Pourquoi pas? Parce que ce n'est pas une question de droits humains, c'est une question de logique. Viens avec moi à Los Angeles, dans Los Angeles même, tu vas voir les gens qui vivent dans les rues. On n'a pas les moyens pour nous-mêmes, pour les citoyens américains, les vétérans de la guerre, les gens, les vieillards, les pauvres.
Oui, on a bien compris.
Il faut nous protéger avant que les gens qui viennent ici illégalement du monde entier.
D'accord. Alors, M. Cohen, votre point de vue sur cette question particulière?
Oui, tout le monde est contre l'immigration illégale. Il n'y a pas de question. C'est des questions. Quelle est la meilleure façon d'empêcher l'immigration illégale? Bien sûr, M. Trump a promis de construire une mur. Il y a beaucoup de gens qui le soutiennent chez les Républicains. Sont très contents de sa décision de l'état d'urgence parce qu'il a promis de faire mieux. Donc, il mérite ce soutien. Mais il y a raison pour laquelle le Congrès a refusé l'argent parce qu'il croit que c'est pas une bonne moyen d'empêcher l'immigration. Et un deuxième sujet, pour construire le mur, il faut saisir beaucoup de propriétés privées. Il y a beaucoup d'Américains qui habitent sur la frontière. Ils ont des fermes, ils ont des maisons, etc. Il faut saisir tout ça. Et donc, ça, c'est mauvais pour une grande population américaine.
Oui. D'accord. Merci. On a deux auditeurs. D'abord, Alphonse Mbouaki, depuis Kinshasa. Bonsoir, Alphonse.
Bonsoir, Abdou. Moi, j'avais une question à poser, mais j'ai déjà obtenu la réponse. Bon, je trouve que ma question, c'est concernant... J'allais demander seulement en quelles circonstances un président peut-il déclarer l'état d'urgence nationale. Mais j'ai trouvé déjà des réponses.
Vous avez la réponse. C'est souvent quand le Congrès n'a pas le temps de se réunir et voilà, de dégager le fond. Donc, merci beaucoup, Alphonse. On a Tierno Diallo. Depuis Tierno Mardialo, depuis Conakry, bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir à l'ensemble de Jeux de auditeurs de VOA Afrique.
Oui, on vous écoute.
Merci. Moi, je pense que M. Trump, depuis qu'il est là, il cherche à inventer des bras de fer parce que vouloir décréter l'urgence nationale est quelque chose vraiment qui va encore... créer d'autres problèmes, comme il l'a fait depuis toujours. Et il vaut mieux de venir au niveau du Congrès et du Sénat, continuer de dialoguer et de ne pas montrer le forcing, en fait, parce qu'une fois qu'il la passe, les autres aussi vont faire recours à la justice.
Voilà.
Depuis plusieurs fois qu'elle a été rebootée, par la justice, ce qui concerne l'immigration. Donc, l'immigration, comme disais tout à l'heure, illégale, personne ne soutient cela, mais il faut qu'elle montre qu'il est un peu pacifique dans ses décisions. Il faut qu'elle essaye
voilà,
de comprendre que
la
proposition des autres
merci beaucoup.
Du peuple.
On a bien compris, Tierno. Alors, Monsieur Beaver, cet auditeur de Conakry pose quand même un débat assez intéressant. L'allocation budgétaire, c'est l'affaire du Congrès. Pourquoi le président ne peut pas continuer à discuter, sachant que les parlementaires vont se battre pour qu'on ne leur prenne pas un peu leurs prérogatives constitutionnelles? Même chez les Républicains, il y a une certaine opposition, justement, uniquement pour cette raison.
C'est une question de politique, pure et simple. Les démocrates veulent des voix, les républicains ont peur de perdre des voix. On sait très bien qu'il faut un mur, il faut agir, puisqu'avant, rien ne marche. Les gens continuent, des milliers de gens continuent à venir traverser la frontière illégalement. Ça nous coûte les jeux de la tête.
Mais vous savez très bien que...
C'est purement politique.
Vous savez aussi, M. Beaver, que les parlementaires, de façon générale, qu'ils soient démocrates ou républicains, sont très jaloux de leurs prérogatives. Ils veulent qu'on leur reconnaisse ce droit d'allouer les fonds.
Ils veulent des voix. C'est une question de politique. Ils s'en foutent complètement, ces pauvres mecs d'Amérique du Sud. Ils veulent être réélus.
D'accord, merci. Alors, Herman Cohen, M. Beaver parle de politique politicienne un peu. Le président aussi, certains lui reprochent de penser déjà à 2020. C'est pour ça que... Est-ce que vous voyez de la politique dans tout cela pour les deux côtés?
Absolument, absolument. Président Trump a les gens qui votent pour lui, qui l'ont élu en 2016, et il sait que ces gens-là demandent une mille et demandent d'empêcher les gens de venir. Donc, il parle à ces gens-là parce qu'il veut être réélu en 2016. Quand même, vous savez, dans le budget que le président a signé, il y a quand même de l'argent pour 80 kilomètres de mur. Mmh. Donc, les démocrates n'ont pas dit zéro. Ils ont dit qu'il y a des endroits où on a besoin d'un mur.
Ils ont aussi recruté 75 juges.
C'est ça. Mais les démocrates savent aussi qu'il y a beaucoup d'Américains qui sont contre le mur, surtout dans la communauté hispanophone, dans la communauté noire et dans les communautés à gauche. Donc, eux aussi, ils visent l'élection de 2020. Donc, je suis d'accord avec mon collègue en Californie qu'il y a la politique là-dedans.
Et avant de prendre d'autres auditeurs, M. Cohen, le Congrès peut tout de même empêcher la mise en œuvre de l'état d'urgence nationale, mais il faut que les deux chambres puissent voter une résolution. Vous pensez que c'est faisable, vu un peu la division au Congrès?
C'est faisable, mais vous savez, le Sénat est contrôlé par la majorité des républicains. Et je suis sûr qu'ils ne vont pas embarrasser le président avec un vote comme ça. Ce qu'il va faire va tomber ou va continuer devant la Cour suprême.
Devant les tribunaux. Oui, tout à fait. Donc on a Diarra Kanyoumé. Diarra, bonsoir. Diarra, vous êtes là? Oui.
Oui, je suis là. Bonsoir, la VOA.
Oui, bonsoir, on vous écoute.
Ok, à mon avis, je pense que vraiment le débat est très, très intéressant, mais il faut imaginer que vraiment depuis M. Trump il est venu au pouvoir, il faut imaginer que vraiment le peuple américain ne fait pas au moins plaisir avec lui parce qu'il a exagéré vraiment son mandat. Donc je pense que vraiment en Amérique, depuis il est venu aussi, vraiment les affaires des migrants, ils sont en train de fatiguer par rapport à certains droits. Donc je pense qu'en Amérique, c'est un pays droit. Donc il faut que M. Trump même, il doit savoir que vraiment l'Amérique, c'est un grand pays puissant. Donc il doit faire faveur pour que non, la paix doit revenir. Pays. Il faut imaginer, il y a un moment...
Il faut qu'on y aille un peu rapidement. Le temps nous presse malheureusement. Merci beaucoup, Diarra. On a Bakary Keïta également en ligne. Bakary?
Bonsoir.
Bonsoir.
Oui, quand même, je suis en partie d'accord avec Trump. C'était les mots quand même de sa campagne. Donc, c'est le lieu vraiment de les réaliser. Et aussi, d'un côté, Trump veut vraiment sécuriser vraiment les États-Unis avec ce mur. Mais il va falloir que Trump ait aussi l'aval des deux chambres là. Donc,
vous êtes d'accord avec lui sur le principe, mais vous auriez aimé que le Congrès, en fait, autorise le financement, si je vous comprends.
Effectivement, je suis un peu d'accord parce qu'en partie, il va falloir, parce que Trump, les gens ne le comprennent pas, mais lui-même, Trump sait ce qu'il veut, et quand même, en partie, je suis d'accord avec lui. Par exemple, en construisant le mur, là, ça va peut-être sécuriser vraiment l'entrée quand même des migrants aux États-Unis, surtout vers le Mexique, là, est-ce que vous voyez? Donc, pour ça, là, les gens rentrent sans payer vraiment des visas. Alors que s'ils passent par l'ambassade, là, le pays va quand même amasser quand même beaucoup d'argent.
D'accord.
En partie, quand même, je suis d'accord avec lui.
Ouais. Merci beaucoup, Bakary Keïta. Alors, Denis Beaver, on a deux auditeurs qui sont partagés, hein, mais l'autre débat, c'est est-ce que cela ne peut pas constituer un dangereux précédent si, par exemple, un président démocrate arrive et décide qu'il va déclarer l'état d'urgence sur un sujet qui passionne, disons, les progressistes, la base des démocrates?
je n'ai pas compris la question.
Si l'état d'urgence est déclaré pour le mur, le prochain président peut aussi déclarer l'état d'urgence sur une question, disons, sur les armes à feu, par exemple. Est-ce que ce n'est pas un dangereux précédent?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais maintenant, la question du mur, c'est réel. Il faut agir. Il faut faire quelque chose. 30 ans de blablabla, on n'a rien fait. On dit, lolo, il faut agir, il faut changer notre système d'immigration, les lois, ceci, cela. On n'a rien fait. Les gens continuent à envahir le pays. C'est ça. On n'a pas les moyens pour nous autres. Il faut penser d'abord nous autres. Les Américains qui sont là légalement, qui ont besoin de secours, nous-mêmes, pas les autres.
Voilà, c'est bien compris. Monsieur Cohen, je vous pose aussi la même question. Est-ce que ça ne peut pas être un précédent dangereux si un autre président peut venir dire que les armes à feu, ça tue beaucoup de personnes, alors que c'est quand même garanti par le second amendement?
Oui, c'est vrai. Il y a un président qui veut faire la démagogie, un extrémiste, il peut faire la même chose que le président Trump. Donc, je suis d'accord que c'est un président. Mais nous pouvons compter sur les tribunaux pour juger si c'est un cas d'urgence ou pas un cas d'urgence. Une autre chose, vous savez qu'il veut prendre l'argent pour le mur du département de défense de leur budget de construction. Donc, s'il enlève cet argent, ça va causer beaucoup de chômage dans l'industrie de construction des États-Unis, dans les différentes bases américaines. Donc, c'est un autre problème qui complique les choses.
Justement, M. Beaver, le président se présente comme le champion des hommes en tenue. S'il prend une partie de leur budget, ça ne pose pas un problème?
Je ne peux pas répondre. Il faut agir. C'est tout ce que je sais ici en Californie. On voit les gens qui sont là illégalement, qui nous bouffent. Ah, c'est une réalité. Et les démocrates qui veulent les voix s'en fichent complètement. Ils veulent être réélus. C'est tout ce qui est important pour eux.
D'accord, merci. Alors, avant de terminer l'émission, on va peut-être faire un parallèle avec l'Afrique quand même, hein, puisque c'est l'Amérique et vous. Monsieur Cohen, la question de la séparation, au-delà du débat même sur l'immigration, il s'agit aussi de la question de la séparation des pouvoirs. Dans beaucoup de pays africains, la société civile se plaint de cette absence de contrôle, de ce qu'on appelle ici le checks and balances, le fait que le Congrès au moins se batte pour dire non, monsieur le Président, c'est notre rôle, c'est notre prérogative. Qu'est-ce que cela vous inspire, vous qui avez, disons, vous qui connaissez bien l'Afrique?
Oui, dans plusieurs pays africains maintenant qui commencent à aller plus vers la démocratie, il y a les parlements qui commencent à être un peu plus forts, par exemple le Ghana, la Côte d'Ivoire. Mais en général, les partis en majorité qui contrôlent la présidence et le Congrès, ils s'en fichent un peu de ce que le Parlement veut. Et ça, c'est mauvais.
D'accord.
Il faut qu'ils donnent plus de pouvoir au Parlement.
D'accord, merci. On va clôturer rapidement en 30 secondes. Monsieur Beaver, votre mot de la fin?
Il faut le mur. Il le faut maintenant.
D'accord. Un message très clair pour M. Beaver. Herman Cohen, on va terminer avec vous.
Et il faut laisser entrer les gens légalement parce que nous avons besoin d'ouvriers. Il y a très peu de chômage. L'économie est en expansion. Nous avons besoin des immigrés.
Voilà. Débat très intéressant avec également la participation de beaucoup d'auditeurs. C'est la fin de l'Amérique et vous. Je remercie ambassadeur Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines qui était en ligne de Washington. Également Dennis Beaver, avocat à Bakersfield en Californie. Merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs. Abdourahman Dia au micro. De l'autre partie de la baie vitrée, Michel Joseph. Également donc dans un instant, une autre édition du Monde aujourd'hui avec Eric Manelikiza. Au revoir.